France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, aller chercher un devin, lui demander conseil, parce qu'on a un très grave problème, ça pouvait être risqué. On appelle au secours un devin parce qu'on est dans une impasse. On est embrouillé dans une histoire inextricable. On ne voit aucune solution. On a plein de scénarios en tête sur toutes les issues possibles. Mais on ne sait pas choisir. En fait, on ne sait rien imaginer tant la situation est opaque, inconnue. Même les experts les plus experts, les autorités les plus autorisées, comme aurait dit Coluche, n'y comprennent rien. Ça, on connaît bien en ce moment. C'est grave. S'il s'agit de la vie ou de la mort, s'il s'agit de la survie de toute une communauté en danger extrême d'anéantissement, on ne voit qu'un remède, interroger les dieux, par l'intermédiaire d'un bon devin bien fiable.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Un devin ne sert pas seulement à prédire l'avenir. Comme il sait ce que pensent les dieux, il donne des conseils réalistes, informés. Pour s'en sortir, il est comme un médecin qui connaît bien l'état des choses et les remèdes possibles. Mais consulter les dieux, c'est risqué. Les dieux savent tout. Ils vont donc pouvoir dire ce qui nous attend ou ce qu'il faut faire, si on les interroge gentiment, bien comme il faut. Mais la parole divine est tellement différente de la nôtre, tellement éloignée, que ça risque de faire très mal. On va le voir aujourd'hui, avec la rencontre inévitable et brutale entre le roi de la ville de Thèbes, Œdipe, et son devin Tirésias.
Consulte Tirésias, le devin. Il lit dans l'avenir aussi clairement que Phoebos.
J'y ai pensé. J'ai suivi le conseil de Créon. J'ai envoyé deux messagers vers Tirésias. Il devrait être là.
Thèbes est décimée par une peste. Le devin est censé dire le remède. Mais ça se passe très mal. Un choc de titans. Les dieux, dont Tirésias est le porte-parole, ne se montre pas coopérant. Œdipe ne sera pas heureux. D'un homme heureux, à qui il arrive du bien, on dit en grec qu'il a une bonne divinité avec lui, un bon démon. Il est Eudaimon. Eu veut dire bien, comme dans euphorique, euphonie. S'il est malheureux, c'est que la divinité est mauvaise avec lui. Il est Kakodaimon, comme dans cacophonie. À la fin, tout dépend des dieux. Dans la religion grecque, le démon, le daimon, n'est pas un diable, un esprit malin. C'est au départ un dieu, n'importe lequel, en tant qu'il intervient directement dans notre existence et nous attribue la part de vie qui nous revient. Le dieu, comme démon, répartit le bon et le mauvais. Dans le mot daimon, il y a le verbe partager, diviser, daiomai. Le mot qui sert à dire le repas, daïs, comme repas équitable, bien partagé, vient de là. Quand on mange bien à table, avec une nourriture bien répartie, on fait comme les dieux, pour un temps. La ville de Thèbes, en Grèce, a eu d'urgence besoin d'un bon devin, plusieurs fois. Elle en avait un dans ses murs, Tirésias, dont nous avons raconté une partie de l'histoire la semaine dernière. Thèbes était au départ une ville fabuleuse, mais condamnée.
Jean-Pierre Vernant, helléniste.
Dès l'origine de Thèbes, il y a une espèce à la fois de volonté de marquer des origines mythiques, de rattacher le groupe humain, la ville, la cité, à quelque chose qui est l'au-delà. Et en même temps, c'est une origine sombre, c'est-à-dire que le meurtre, la faute, elle est là.
Elle a été créée sous le signe de la violence. D'Asie est arrivé un exilé, un prince. Il s'appelait Cadmos. Il était perdu. Il est allé à Delphes, demander à l'oracle d'Apollon ce qu'il devait faire, où il devait aller. Apollon lui a ordonné de suivre une vache et de la sacrifier à l'endroit où elle s'effondrerait de fatigue. Là, il devra fonder une ville. Mais à l'endroit où la vache est morte, vivait dans une grotte un énorme dragon, un serpent sanguinaire. Il appartenait au dieu de la guerre, Arès. Le jeune prince a dû le combattre, il le tua. Une divinité, Arès peut-être, intervint alors Elle sema les dents de ce dragon dans un champ que Cadmos avait labouré. Une moisson de guerriers sortit de terre. Ils se combattirent, 5 survécurent. Ils sont à l'origine des 5 familles nobles de Thèbes. Un descendant de ce Cadmos est devenu roi de Thèbes. Il s'appelait Laios. Il a épousé Jocaste, une descendante de l'un des 5 guerriers survivants. Le couple n'a pas d'enfant. Laios, qui comme tout roi veut une descendance, va interroger le dieu Apollon dans son temple de Delphes. Le dieu lui donne un avertissement bizarre. « Si Laios devient père, dit le dieu, son enfant le tuera. »
« Ô seigneur de Thèbes, la ville des beaux chevaux, n'ensemence pas le sillon de l'enfantement, ne va pas contre les dieux. Si tu mets au monde un enfant, celui qui naîtra te tuera, et toute la maison s'en ira dans le sang. »
Cette menace annoncée par le dieu est due au comportement de Laios. Dans le passé, Laios a séduit un très jeune homme, et ce jeune homme s'est suicidé. Le père du suicidé a maudit Laios et toute sa famille. Apollon, dans son oracle, laisse une issue à Laios. Il veut un enfant, mais cet enfant sera son meurtrier. Laios a donc une solution. Ne pas engendrer. Ça dépend de lui. Il n'y a pas de destin incontournable. L'oracle donne seulement un avertissement. Il informe et laisse le choix. Laios, pris par l'ivresse, ne peut s'empêcher de s'unir à Jocaste, son épouse. Naît un fils, Œdipe, dont l'histoire est bien connue. Ses parents décident de le supprimer, puisqu'il est une menace. Ils ordonnent à un berger de porter le bébé dans la montagne pour que les bêtes sauvages le mangent. Le berger attache le nouveau-né à un bâton en lui perçant les pieds et va dans la montagne. Mais il a pitié de lui. Il le confie, vivant, au berger d'un autre roi. La famille de ce roi adopte Œdipe et lui donne son nom. Pied gonflé, en grec, Oedipus, Œdipe. L'enfant grandit. Un jour, il se fait traiter de bâtard par un camarade de jeu. Inquiet sur ses origines, Œdipe s'enfuit et va consulter l'oracle d'Apollon à Delphes pour lui demander si ses parents, ceux qu'il connaît, sont vraiment ses parents. Comme d'habitude, le dieu répond à côté de la question. Apollon ne dit rien sur l'identité des parents d'Œdipe, mais fait une prophétie terrible. Œdipe va tuer son père et épouser sa mère.
Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Hai capito? Nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre.
Effrayé, Œdipe ne retourne pas dans la ville où il a grandi. Il se dirige vers Thèbes. En chemin, il rencontre un homme en grand équipage, un roi. Ce seigneur, plein de mépris, ne le laisse pas passer. Œdipe le tue. C'était Laios, son père biologique. Œdipe ne pouvait pas le savoir. Il arrive près de la ville de Thèbes et tue un monstre qui dévorait les jeunes Thébains, la Sphinx. On l'accueille en libérateur. Il épouse la reine, qui était sa mère Jocaste. Cela non plus, il ne pouvait pas le savoir. Œdipe devient roi de Thèbes. Un roi heureux, très glorieux, qui paraissait béni des dieux. Du fils et de la mère naissent 4 enfants, 2 frères, Étéocle et Polynice, et 2 sœurs, Antigone et Ismène. Œdipe avait voulu échapper aux horreurs que le dieu de Delphes, Apollon, lui avait annoncées. Mais c'est en essayant d'y échapper qu'il les a réalisées. Tirésias, le devin de Thèbes, n'est pas intervenu. Il a tout de suite compris qu'Œdipe, ce jeune homme merveilleux, était le meurtrier du roi et donc de son père, et que la reine qu'il épousait était sa mère. Tirésias n'a rien dit. Personne ne lui avait rien demandé. On consulte un devin quand on a un problème à régler. Là, il n'y avait rien à régler. Le vieux roi Laios a été tué, mais est arrivé un jeune et beau remplaçant qui a délivré Thèbes d'un monstre affreux. Tout va bien.
Il faut que chaque génération joue son rôle pendant un certain temps à sa place et qu'elle soit suivie par la génération suivante, postérieure, au moment où il faut. Or, toute l'histoire d'Œdipe, ça va être que dans cette recherche de son origine, non seulement il va réaliser cette faute épouvantable qui pèse sur toute la lignée. Un chrétien dirait péché. Toute cette lignée qui se rattache aux origines de Thèbes, elle est souillée au départ par le sang qui a été versé, par les déviances. Et on peut dire que la pseudo-boiterie, le fait que l'Abdakos est le boiteux, l'Aios le gauche, que Édipe lui-même a cette jambe qui n'est pas exactement comme l'autre, indique cette absence de rectitude, de netteté, de pureté.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Mystique is dead. Last year was bad. I let myself get sucked in by arithmetic. Felt great to strip. New waist to hit. I hate to admit just how much I paid for it. Did I cry myself to sleep about that? Cheat about that? Rot teeth about that? Did I sweat hours a week about that? Compete about that? Lose my freak about that? Huh. All of the above. I wanna punch the mirror. Scared to quit, loosen my grip. It's tough to admit just how much I get from it. When I cry myself to sleep about that, cheat about that, getting too deep about that. When I sweat hours a week about that, compete about that, letting her treat me like that. I think that's love. I wanna punch the mirror to make her see that this won't last. It might be months of bad luck, but what if it's just broken glass? Spend my summer getting lost in math, making way took all I had. Won't outrun it if you don't hit.
Pierre Judet de Lacombe parle de la rencontre tumultueuse entre le roi Œdipe et Tirésias, le devin qui sait tout, mais refuse de parler.
Le temps passe. Apollon finit par s'énerver. Il faut que la monstruosité de ce qui s'est passé dans cette famille éclate. Œdipe, le roi de Thèbes, est au comble de sa gloire. Il est présenté comme le sauveur de Thèbes. Mais pour le dieu, il est temps que cela cesse. Œdipe est en fait un criminel, une souillure. Apollon veut qu'il soit démasqué en public, devant toute la cité. Le dieu envoie la peste contre Thèbes. Les gens, les bêtes meurent en masse. Il n'y a plus d'accouchement, plus de moisson. Toujours depuis son temple de Delphes, Apollon fait savoir par un oracle qu'il y a un remède, un seul. Le seul moyen de guérir la ville est de la délivrer de la souillure qui l'infecte. À savoir de la délivrer du meurtrier du roi Laios, c'est-à-dire Œdipe lui-même.
Œdipe, regarde, nous voici tous agenouillés au pied de tes autels, jeunes et vieux. Je suis le prêtre de Zeus. Thèbes se noie, Thèbes se meurt.
ses graines pourrissent dans son sol. Nos morts emplissent les enfers de leurs lamentations et de leurs cris. Édipe, nous savons que tu n'es pas un dieu, mais nous savons aussi qu'en chaque circonstance, en chaque vicissitude de la vie, à chaque fléau envoyé par la divinité, tu fus le seul à pouvoir nous aider. Nous t'implorons, aide-nous, sauve-nous.
On est en pleine tragédie. Le roi, qui est chargé de purifier sa ville et de la guérir en chassant le meurtrier de Laios, et sans le savoir, le meurtrier lui-même. Sophocle, le poète athénien, a fait jouer au théâtre cette histoire avec sa tragédie Œdipe roi. Il donne un grand rôle à Tirésias. On assistera à une lutte très violente entre le devin qui sait tout et ne veut rien dire et le roi qui veut à tout prix le faire parler. Ce sera brutal. En bon responsable politique, Œdipe, qui ne sait pas qu'il est lui-même le meurtrier qu'il cherche, lance une enquête méthodique. Il demande à Tirésias de l'aider. Il fait venir le vieux devin aveugle. Tirésias entre en scène, guidé par un enfant. Mais il refuse de parler. Œdipe est stupéfait. La raison qu'invoque Tirésias pour son silence est bizarre. Il dit à Œdipe qu'il ne veut pas lui communiquer sa souffrance. Lui, le devin, sait ce qui est arrivé. Il en souffre et ne veut pas imposer sa douleur au roi. Œdipe le supplie de parler. Tirésias refuse toujours. Il invoque son désir de protéger Œdipe du mal dont il souffre, lui, Tirésias, qui connaît la vérité. Œdipe ne peut évidemment pas comprendre.
Au nom des dieux, si tu n'es pas fou, ne te dérobe pas. Nous tous qui sommes là en suppliant, nous nous prosternons devant toi.
C'est vous qui êtes fou. Je ne vais pas t'apprendre ma douleur. Je n'aurai pas comme cela à parler de la tienne.
Que dis-tu là? Tu sais et tu ne parleras pas? Tu médites de me trahir? Tu médites la ruine de la ville?
Je ne ferai de mal ni à moi ni à toi. Pourquoi poursuivre cet interrogatoire? Tu ne tireras rien de moi.
Œdipe avait posé à Tirésias une question technique, l'aider par son savoir de devin à établir les faits dans une enquête sur un meurtre. Tirésias sait que l'enquêteur est le meurtrier. La ville ne peut être débarrassée de sa souillure que si le roi est éliminé. Il sait que cela arrivera de toute manière, autant ne rien dire. Tirésias souffre comme Thébain, comme proche et ami fidèle d'Œdipe. Il n'approuve pas ce qu'il aurait à dire. Mais Œdipe, homme politique, s'impatiente. Il dit que ce silence accuse le devin qui devait être un complice du meurtrier.
Cela viendra tout seul, et même si je le couvre de mon silence.
Et donc, ce qui viendra, ne faut-il pas aussi le dire à moi?
Je ne m'expliquerai pas davantage. Là-dessus, si tu veux te déchaîner dans la colère la plus sauvage...
Eh bien, je ne cacherai rien avec la colère que j'ai, comme je le vois. Sache-le bien. Tu m'as tout l'air d'être de ceux qui ont fomenté le crime. Je dis plus, de l'avoir perpétré, comme tu as tué sans te servir de tes mains. Si tu possédais la vue, j'aurais même dit que le crime est ton œuvre, à toi seul.
Œdipe raisonne selon un schéma politique habituel, encore courant de nos jours. Qui n'obéit pas à ses ordres est contre lui et veut saper son autorité. Tirésias devient un ennemi non pas seulement d'Œdipe, mais du peuple entier. Œdipe le soupçonne de s'être laissé acheter et de comploter avec un autre prince, Créon. Tirésias se défend. Il parle comme un devin et révèle brutalement la vérité vraie sur le meurtre de Laios, sur le mariage avec Jocaste.
Je dis que tu es toi, l'assassin de cet homme. Celui que tu cherches à prendre.
Tu me payeras cher de me dire deux fois le mal que tu dis.
Veux-tu donc que je t'en dise encore pour que tu sois plus en colère?
Autant que tu le désires, puisque tu as parlé pour rien.
Je dis que sans le savoir, tu as les rapports les plus dégoûtants avec tes plus proches parents et que tu ne vois même pas jusqu'où tu t'es enfoncé dans le crime.
Œdipe, le roi, croit comprendre. Ses insanités montre que Tirésias a été corrompu par un parti politique qui veut le chasser de son trône. Le devin n'est selon lui qu'un charlatan avide et incompétent, un imposteur. La preuve, il n'a pas su répondre à la sphinx, la chienne monstrueuse qui dévorait des jeunes Thébains à qui elle posait une énigme. Œdipe, lui, a trouvé la réponse à l'énigme, alors qu'il passait là par hasard. les injures contre Tirésias pleuvent.
Un trafiquant d'oracles retors qui n'a Dieu que pour le profit, dans son art un aveugle. Voyons, dis-moi, en quoi es-tu devin sûr? Pourquoi, quand la chienne était là, la chanteuse, ta voix, n'a-t-elle pas indiqué aux gens de cette ville un moyen de s'en tirer? Et pourtant le mot de l'énigme, un passant ne pouvait pas le dire. Il y fallait de la divination. Tu as montré publiquement que tu ne l'avais pas, ni par les oiseaux, ni comme connaissance reçue des dieux. C'est moi qui suis venu, moi, Œdipe, qui ne suis pas un homme de l'art. Je l'ai fait taire. J'ai trouvé par la réflexion, sans rien savoir des oiseaux. Et c'est cet homme que tu essayes de chasser.
Œdipe a été le seul à résoudre l'énigme mortelle de la Sphinx. L'énigme reposait en fait sur un jeu de mots. Quel est l'animal qui, à sa naissance, a quatre pattes, puis deux, puis trois? La réponse bien connue est l'homme, qui, bébé, se déplace avec les pieds et les mains. Ça fait quatre. Puis qui marche sur ses deux pieds, puis qui cède une canne. Ça fait trois. Un poème ancien nous donne la réponse d'Œdipe à la Sphinx.
Écoute. Même si tu ne le veux pas, oiseau de malheur, muse des morts, ma voix mettra fin à ta calamité. Tu as dit l'homme. Comme il se déplace sur la terre, il naît avec quatre pieds, tout bébé au sortir du ventre. Quand il vieillit, il s'appuie sur un troisième pied, son bâton, l'échine pesante, fléchie par la vieillesse.
Œdipe a été brillant, mais dans son reproche à Tirésias, il se gourre complètement. Trouver la solution de l'énigme ne demandait en rien d'être devin. La divination n'a rien à voir avec cela. Œdipe a dû seulement réfléchir, analyser et voir qu'il s'agissait d'une métaphore. La Sphinx parlait en fait d'une chose extrêmement banale, comment l'être humain se déplace au cours de sa vie. Aucun savoir divin n'était requis. Il fallait seulement avoir l'idée de traduire les mots de la Sphinx. Tirésias n'avait rien à dire. Il n'était pas concerné. La divination ne porte pas sur des choses générales, communes, comme la manière dont se déplacent les humains. Elle concerne toujours ce qui arrive ou va arriver à des individus ou à des groupes singuliers dans une circonstance précise et obscure. Par exemple, qui est réellement la personne qui a su résoudre l'énigme de la Sphinx? Qui est l'époux de la reine? Devinez ce qui est tout à fait improbable, caché, à savoir que le libérateur de Thèbes est aussi l'assassin et le fils du vieux roi. Cela demande une compétence divine. Œdipe arrivera aussi à ce résultat, par des moyens humains, les siens, par une enquête minutieuse, et non par des moyens divins. Mais il lui faudra du temps, toute une journée, après des années d'illusions.
France Inter. Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Tu la connais, la vérité. Je t'ai déjà tout raconté. Je t'ai déjà tout dit 100 fois. Mais la vérité, tu n'en veux pas. Préfère les jeux, la télé, les piscines, les macumbas. Tu préfères penser à juillet que la vérité, pourquoi pas? L'escalier. autres sont sales. Tu ne veux pas la vérité.
Pierre-Judet de la Combe évoque Tirésias, le devin énervé qui finit par dire toute la vérité à Œdipe sans être entendu.
Tirésias, malheureux, blessé par les injures du roi, rappelle que lui aussi sait faire de la politique. Il rappelle qu'il fait partie de la cité, pas moins que le roi. Il est devin, il appartient exclusivement aux dieux, à savoir Apollon. Mais ce qu'il est, le chef de la cité doit le respecter. Œdipe est roi, soit, mais lui aussi, Tirésias, a un pouvoir, précisément parce qu'il ne dépend pas de lui. La vraie politique, basée sur l'égalité et le libre discours, doit respecter les fonctions différentes qui, ensemble, font la société. Tirésias fait la leçon à Œdipe.
Tu es le roi, mais il faut établir dans l'égalité de la contradiction, car cette autorité, je l'ai aussi. J'ai une vie d'esclave. Mais je ne suis pas à toi. Je suis à Loxias, Apollon.
Puis, il révèle une grande part de la vérité à Œdipe. Il avertit Œdipe, qui se croit malin et puissant, qu'en fait, il ne sait rien sur lui-même. Et il prédit même qu'Œdipe finira aveugle, comme lui, Tirésias.
Je parle, puisque tu as injurié même l'aveugle que je suis. Toi, les yeux, tu les as. Et tu ne vois ni jusqu'où tu t'es enfoncé dans le mal, ni où tu loges, ni avec qui tu vis. Sais-tu seulement de qui tu es le fils ? Tu ne sais pas non plus que tu es l'ennemi chez les tiens, là-dessous et sur terre, en haut. Et la malédiction aux pieds terribles de ta mère et celle de ton père, arme double, te chassera un jour de cette terre. Voyant bien maintenant, et plus tard, la ténèbre.
Ces déclarations, Œdipe ne les comprend évidemment pas. Il n'y entend que du délire. Mais Tirésias se défend. Celui qui délire, c'est celui qui se croit raisonnable, qui croit maîtriser la situation, le roi.
Quel parent ? Un instant, qui au monde est mon père ?
Ce jour-ci te fera naître et t'anéantira.
Comme tout ce que tu dis est énigmatique et imprécis.
N'est-ce pas toi le champion dans ce genre de découverte ?
Insulte à ces exploits où tu découvriras ma grandeur.
Ce succès a pourtant causé ta perte.
Tirésias quitte la scène. Il demande à l'enfant qui le guide de l'aider à sortir. Mais avant, il fait une déclaration très explicite. Il ne nomme pas Œdipe expressément, mais il révèle tout ce qu'Œdipe péniblement découvrira par lui-même. Le meurtre du père, l'inceste avec sa mère, l'horreur qu'est sa famille. Et avec cette conclusion, finalement, Œdipe s'aveuglera.
Je m'en vais. Mais avant, je te dirai ce qui m'a fait venir. Ta personne ne me fera pas peur. Tu n'as pas les moyens de me démolir. Je le dis. Cet homme que tu cherches, depuis un bon moment, avec tes menaces et tes proclamations sur l'affaire du meurtre de Laios, cet homme, il est ici. Un étranger, d'après ce qu'on dit, un résident, on verra plus tard qu'il est Thébain de naissance, et la circonstance ne lui fera pas plaisir. Aveugle, n'ayant plus sa vue, mendiant au lieu de riche, il marchera, montrant de son bâton la terre devant lui, qui lui est étrangère. On le verra lié à ses propres enfants, lui-même leur frère et leur père, de la femme d'où il est né, le fils et le mari. Père avec son père, dans un lit, et son assassin.
Tout est dit, ou presque, de ce que Œdipe a vécu sans le savoir, et de ce qu'il vivra. Œdipe ne répond pas, mais il a bien compris que le devin parle de lui, qu'il le désigne comme assassin. Le roi se dit qu'un vaste complot est mené contre sa personne. À travers Tirésias, le divin a parlé. Mais il l'a fait par une bouche humaine, qui voulait d'abord garder le silence, tant ce qu'elle pouvait révéler ferait mal. Mis en colère par la violence du roi, Tirésias a craqué. Il se défend en énumérant toutes les horreurs qu'Œdipe ne manquera pas de découvrir sur lui-même. Œdipe, dit-il, verra alors que lui, le devin, avait raison, qu'il n'était pas incompétent. Le devin ne pouvait pas convaincre le roi. La vérité qu'il révèle sonne aux oreilles du roi comme une attaque, une provocation. Lui qui pense qu'il n'a jamais tué aucun roi. Œdipe raisonne d'abord en termes de politique. Il est d'abord soucieux du salut de sa ville. La parole divine portée par Tirésias est absolument vraie, mais elle est inaudible. La divination ne sert à rien, sauf à mettre le roi sur une fausse piste. Il va être obsédé par l'idée de complot visant à le renverser. Sauf que la vérité a été dite, même si elle n'est pas entendue. Personne n'y croit, mais elle crée un choc énorme qui se propage en longues vagues. Les Thébains vivaient dans l'illusion, dans l'ignorance. Ils vont en sortir grâce à Œdipe lui-même, qui, provoqué par Tirésias, s'enferme d'abord dans l'erreur, mais qui, par sa ténacité à vouloir trouver le vrai, changera. Il explique à sa femme Jocaste que le prince Créon, qui est le frère de Jocaste, s'est mis de mèche avec Tirésias pour le chasser. La preuve, les affirmations insensées du devin. Jocaste essaye de le rassurer en lui disant qu'il ne faut pas croire les devins. Ils peuvent se tromper. Elle en a la preuve. Elle raconte.
Découvre pour ta gouverne que rien de ce qui est humain n'interfère avec l'art des devins. Je vais t'en donner des preuves concises. Un oracle fut un jour rendu à Laios, je ne dirai pas de la part d'Apollon en personne, mais de la part de ses ministres. Un destin devait venir à lui, d'être tué par le fils qui allait naître de moi et de lui. Quant à lui, du moins, on le raconte, ce sont des étrangers, des brigands qui l'assassinent, au lieu dit des trois routes. Et pour le fils, quand il fut venu à terme, il ne s'était pas passé trois jours qu'il lui entrava les pieds et le fit jeter par d'autres mains dans une montagne perdue. En cette circonstance, Apollon donc n'a pas accompli l'oracle. Et le fils n'est pas devenu le meurtrier de son père, pas plus que Laios n'a subi de la main de son fils le destin effroyable qui le terrifiait.
L'oracle, qui a décidé de toute l'histoire, serait donc faux. Jocaste n'accuse pas directement Apollon, mais les serviteurs de son temple, qui ont dit n'importe quoi. Le cœur de la pièce, des vieillards pieux, assiste au dialogue. Il est abasourdi. Si Delphes s'est trompé, alors la religion, les cultes, s'effondrent.
Car voici que l'on rejette comme mourante les prophéties faites à Laios. Et nulle part Apollon ne rayonne dans ses honneurs. Le divin s'en est allé.
Mais l'oracle avait raison. Sans le savoir, Jocaste a donné un indice qui va conduire Œdipe à trouver la vérité et à accepter qu'il a été le meurtrier de son père. Elle a parlé du lieu où est mort Laios, le croisement des trois routes. Or, c'est bien là que le jeune Œdipe a autrefois tué un vieillard arrogant qui l'empêchait de passer. Le seul espoir que ce ne soit pas lui repose sur un mot. Jocaste a parlé de brigands, au pluriel, qui ont tué Laios. Or, Œdipe était seul. Il mettra toute son énergie à élucider ce point et la vérité s'imposera. Ce sera le désastre. Jocaste va se pendre. Œdipe va s'aveugler avec les agrafes de la robe de sa mère épouse. Il sera comme Tirésias, aveugle et sachant le vrai. Il vivra longtemps et sera maltraité par ses fils, nés d'un inceste. En colère, il les maudira. Il les vouera à la mort dans une guerre où ils se massacreront l'un l'autre, comme se sont massacrés les hommes armés, nés autrefois des dents du dragon que Cadmos avait semé. Thèbes sera toujours dans la violence. Tirésias, encore une fois, annoncera ce malheur. Jocaste, ses fils, feront tout pour l'éviter. Ils imagineront des solutions, mais le malheur aura lieu. Mais au moins, les oracles n'enferment pas ceux à qui ils sont adressés dans un destin tout tracé. Au contraire, ils sont tellement terribles qu'ils obligent à se démener pour inventer des solutions avec la plus grande imagination possible, jusqu'à la fin.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Mélissa Etroit et le mixage par Gaspard Laloum. La semaine prochaine, nous retrouverons Zeus et le chêne qu'il fait parler à Dodone. Après les infos, vous retrouverez Lilia Hassen et son émission « Au livre », etc.